Vous écoutez RTL.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h19 sur RTL. C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec Rokhaya Diallo. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Yves Tréhard. Bonsoir.
Bonsoir Marco. Bonsoir à tous.
Avec les journalistes Nicolas Poincaré. Bonsoir.
Bonsoir Marco.
Et Olivier Ravanello.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Olivier. On va commencer par la privatisation d'aéroports de Paris, décollage immédiat donc pour la privatisation d'aéroports de Paris. L'Assemblée nationale examine la loi Pacte qui prévoit de céder, vous le savez, tout ou une partie de la participation de 50,6% de l'État dans ADP. Bruno Le Maire assure que toutes les décisions stratégiques resteront dans les mains de l'État, mais les opposants dénoncent la vente des bijoux de famille. ADP, largement perfective selon le Premier ministre, a rapporté 173 millions d'euros en 2017. Alors avec Roissy et Orly privatisés, on refait l'erreur des autoroutes ou pas, sur les réseaux sociaux. Pour commencer, votre avis avec vous, Benoît Gadré, bonsoir.
Bonsoir, mais ils sont contre, ou presque tous contre, quand on voit le succès de la vente de l'aéroport de Toulouse, qui pourrait être annulé, soupire Anticor. Entièrement d'accord, nous devons garder les aéroports publics. Après le racket des autoroutes, on a compris, confirme Laurent. Et la réponse du gouvernement, le rôle de l'État n'est pas de gérer des beaux commerciaux, ne convainc pas grand monde. Réduire un aéroport à des beaux commerciaux, sérieusement, c'est touffe Mélème. La sénatrice PS de la Gontrie ironise même que candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux proposera de vendre la Tour Eiffel, parce que le rôle de la mairie de Paris n'est pas de gérer un grand restaurant. Il oublie que c'est notre patrimoine et qu'ils sont là pour les gérer, pas pour les brader à leurs potes, rage Michel. Boum, tout de même, applaudit la seule chose à peu près libérale qu'ait fait Macron depuis qu'il est au pouvoir et ne comprend pas que les gens gueulent, comme il dit. Francesco non plus ne voit aucun intérêt à garder sous contrôle d'État des aéroports ou des transports publics. L'État socialiste, c'est fini, dit-il, ce sera beaucoup mieux géré par des entreprises privées, aucun doute. Mais enfin, insiste Jean-Pierre, depuis 45, cette entreprise se gère toute seule, sous des gouvernements différents, en faisant toujours des bénéfices. Aujourd'hui, ADP est le premier constructeur d'aéroports du monde. 130 000 signatures pour la pétition en ligne qui souligne que les aéroports du Bourget, de Roissy et d'Orly forment une frontière stratégique pour notre pays. Plus de 100 millions de voyageurs. Le caractère sensible de ce type d'infrastructure, disent-ils, explique d'ailleurs que 86% des aéroports dans le monde soient publics. La députée En Marche, Marie Lebec, pour finir, parle de caricature et demande aux oppositions de ne pas faire de ces opérations, de ces de l'État, des totems politiques.
Yves Tréhard, on vend nos bijoux de famille ?
Absolument pas. Moi, je suis tout à fait pour cette privatisation.
D'abord, attendez un petit peu.
Je soulignerai d'ailleurs à nos auditeurs que parmi les plus grands privatiseurs de l'époque moderne, pardon de ce néologisme, Lionel Jospin en fait partie, hein, puisque c'est sous Lionel Jospin qu'il y a eu le plus de privatisation en France. Trois arguments. Le premier, il faut savoir que la privatisation d'ADP ne va pas avec la privatisation du foncier. Mmh. C'est-à-dire que ça sera une concession qui durerait 70 ans. La deuxième chose, c'est que c'est pas...
70 ans, autant dire...
Oui, longtemps, mais c'est quand même le cas.
Oui,
enfin... et puis, dans l'accord, vous pouvez avoir des clauses dans le contrat qui font que si certaines clauses d'intérêt général ne sont pas respectées, y a rupture. Deuxième chose, c'est pas délocalisable, aéroport de Paris. C'est pas comme quand un service public des biens qui sont pas matériels, eh bien vous les cédez à des entreprises privées. Par exemple, si vous cédez complètement les parts de Renault, effectivement, ça peut être délocalisé. Mmh. Il faut rappeler d'ailleurs que l'État pourrait garder une part de d'aéroport de Paris. Troisième argument, comme ça je vais faire très court.
Enfin non, là vous faites déjà long, mais...
c'est mon habitude. C'est que la gestion... c'est pas parce que l'État est très mauvais gestionnaire chez nous, il est très mauvais stratège. Et je pense que cette gestion, si vous mettez des clauses qui sont des clauses respectant un intérêt général et des clauses extrêmement sévères, pas comme d'ailleurs, enfin si, un peu comme dans les autoroutes, c'est le prix de la cession qui a été là mise en cause, eh bien vous pouvez très bien faire que ça marche avec un opérateur
Regardez
privé.
Regardez comme vous avez convaincu Rokhaya Diallo.
Sauf si c'est pas un État. L'opérateur privé ne doit pas être un État. Ça ne doit pas être l'État chinois ou l'État ouzbek, évidemment.
Rassurer
pas vraiment. Malgré l'énergie que vous avez mis, frère, je suis pas tout à fait.
Je m'en doutais aussi.
C'est vrai que ça aurait été inquiétant. Mais c'est vrai que c'est quand même à l'inverse en fait de ce qui se pratique ailleurs dans le monde, y compris dans un pays libéral comme les États-Unis. Donc et il se trouve que Aéroports de Paris, c'est une entreprise qui est bénéficiaire, qui fait des bénéfices très importants. Et puis après, c'est vrai que si on parle de ce qu'investit l'État, l'État, enfin, est investi.
C'est mieux
mieux de vendre une entreprise qui gagne de l'argent que de brader une entreprise qui n'en gagne pas.
Bien sûr, mais c'est vrai que pour le coup, je ne vois pas vraiment le sens de ça, d'autant plus que bah, les aéroports sont desservis par des transports publics qui sont toutes les façons pris en charge financièrement par l'État. Donc, d'une certaine manière, c'est donner à d'autres des moyens qui seront de toutes les façons soutenus
Vous avez raison, sur le contrôle aérien, ça serait public, oui, ça resterait public.
Oui, mais du coup, c'est un ensemble. Ça, pour moi, ça fonctionne de manière cohérente et c'est un ensemble. Et c'est vrai que l'exemple de Toulouse n'est pas très, très encourageant, étant donné les résultats et les recommandations de la Cour des comptes avec l'aéroport de Toulouse. Et c'est vrai que c'est un grand groupe qui est deuxième sur le plan international, qui voyageait des centaines de millions de passagers. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est se priver d'un groupe, en fait, qui est performant sur le plan économique.
Moi, je trouve la comparaison avec les autoroutes assez intéressante. Chaque fois que je prends l'autoroute, j'ai l'impression de me faire avoir. On l'a payé une première fois comme contribuable. Enfin, à l'époque, c'est plutôt mes parents que moi qui payaient, mais ils ont payé. Mmh. C'était à nous, ces autoroutes. Puis d'un seul coup, je crois que c'est sous Balladur, on l'a filé à des copains.
Non, sous Villepin.
C'est
plus récent, c'est en 96.
C'est sous Villepin.
Et pourquoi ça appartient aux contribuables français.
Ça appartient, mais parce qu'il vous explique, les sociétés d'autoroutes, parce que ces routes, il faut bien les retaper, etc. Et que l'État n'a pas les moyens de le faire. Non, mais même avec les péages, manifestement pas. En tout cas, c'est l'explication.
Par définition, ça rapporte de l'argent. Avant, ça rapportait de l'argent à l'État. Maintenant, ça rapporte de l'argent aux copains de M. Villepin. Vous n'allez pas me dire qu'on a fait une bonne opération. Moi, je suis persuadé qu'on a fait une très mauvaise. Et les aéroports, c'est pareil. Les aéroports, à des c'est une grande entreprise qui marche bien, qui n'est pas que à Paris, qui est dans le monde entier, qui fait des gros bénéfices. Pourquoi on se prive de ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec les... Qu'est-ce qu'on espère en tirer? 8 milliards?
10.
Alors que ça en rapporte beaucoup plus que ce que j'ai...
C'est l'équivalent de ce qu'on a donné aux Gilets jaunes. Entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes.
Aux Français. Ouais. Vous alliez répondre, Olivier Anello, Nicolas Poincaré.
Je suis plutôt de l'avis de Yves. Je rejoins la réflexion qu'il faut avoir, mais de manière beaucoup plus large et systématique, sur quel est le rôle de l'État. Non pas par acharnement libéral, mais parce que si on ne se pose pas régulièrement cette question, ce qui relève vraiment du rôle de l'État finit par ne plus être fait et par être mal fait. Et ça abîme la société. Donc oui, il faut se demander en permanence si l'État doit gérer, en l'occurrence, les duty-free d'Aéroport de Paris. Je ne crois pas que ça fasse partie de sa mission. Et économiquement, en dehors de ce que ça rapporte chaque année, mais qui, à l'échelle du budget de la nation, n'est pas décisif, en revanche, si on suit les arguments que j'ai pu entendre du côté de La République En Marche, qui est de dire, ces 10 milliards, on va les mettre à la BPI. L'outil qui est aujourd'hui la BPI est un outil absolument phénoménal. Et de sortir d'une gestion simplement un peu comptable en disant « Ah bah ça fait toujours ça de prix et puis c'est bien pour mettre dans la caisse », d'avoir une véritable réflexion stratégique et de se dire « Ces 10 milliards, ils vont pouvoir être prêtés à de jeunes entreprises qui en ont besoin. »
Et la BPI, c'est Banque Publique d'Investissement.
Oui. Et à qui on ne prête pas. C'est-à-dire que la BPI, c'est peut-être un des grands trucs qu'a fait Hollande et qui est vraiment réussi. Ça permet aujourd'hui à de très jeunes entreprises qui ne peuvent pas aller emprunter auprès des banques parce qu'elles n'ont pas de chiffre d'affaires et qui sont trop petites pour aller séduire des investisseurs, d'aller voir la BPI et qui leur prête, et on sait qu'une fois sur trois, l'argent ne revient pas, mais ça fait partie du jeu, c'est une banque publique. Et cette banque publique, on peut s'en servir encore plus comme un outil de dynamisme économique. Et si ça permet ça, tant mieux.
Non, je ne suis pas convaincu.
Pourquoi vous n'êtes pas convaincu? C'est quand même très concret, non?
Oui, mais ce n'est pas parce qu'on va donner un peu plus d'argent. On peut donner de l'argent à la BPI, ce qui est une très bonne idée, sans la prendre en vendant.
On va la prendre où, Nicolas? On peut pas, non.
Je suis sûr qu'il y a une confusion aussi dans le ADP, parce que ADP, il faut dire que les services rendus par ADP restent, eux, publics. C'est-à-dire que le contrôle aérien, comme vous l'avez dit, les douanes, tout ça, c'est pas des opérateurs privés qui vont opérer ça. C'est évidemment
tout ce qui est stratégique,
c'est le public qui va. Donc c'est simplement, effectivement, un peu en caricaturant, c'est un peu le duty-free qui va être... Et les meubles qui vont être loués, quoi. Enfin, les meubles, les immeubles. Donc, moi, je trouve pas que ça soit essentiellement... Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est de voir la droite qui s'oppose à ça, mais la droite ne sait jamais où elle habite exactement.
C'est vrai que politiquement, ça, c'est marrant de le voir qu'il s'oppose à ça, parce que c'est juste le gouvernement Macron qui le propose.
Le premier qui s'opposait à ça, c'est Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, qui avait lancé une pétition au mois de novembre, je crois, et qui avait été suivie par énormément d'élus de droite. Moi, je suis...
l'argument,
je pense que c'est un argument.
Ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas être idéologique sur ces sujets-là. Il ne faut pas être idéologique. Et je pense que ce n'est même pas un propos libéral. C'est un propos que l'État. Qu'est-ce que vient faire l'État là-dedans, en fait? Est-ce que c'est tout à fait normal que l'État
possède les aéroports?
Oui, ça me semble logique. Et puis après, c'est vrai que par rapport à vos convictions, l'argument de la droite, c'est quand même le contrôle des frontières. Donc, ce n'est pas forcément un argument auquel je suis sensible.
Il continue à être exercé.
Oui, je sais, mais en tout cas, cette crainte qu'ont émis notamment les parlementaires de droite qui sont opposés, justement.
Parce qu'ils sont de mauvaise foi.
Allez, Brexit or not Brexit. Non, Brexit. On en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fauché.
Et avec Yves Tréhard, Rokhaya Diallo, Nicolas Poincaré, Olivier Ravanello. Juste avant de parler du Brexit, depuis hier, on vous parle donc des Boeing 737 MAX 8 et 9, donc interdits notamment de l'espace aérien européen. On se demande pourquoi les États-Unis ne l'interdisent pas à l'instant. Donald Trump annonce que tous les Boeing 737 MAX 8 et MAX 9 seront cloués au sol. Donc on savait qu'hier, il avait parlé avec le patron de Boeing qui avait d'ailleurs en partie financé sa campagne, je crois. Finalement, sa décision aujourd'hui, tous les Boeing 737 MAX 8 et 9 cloués au sol aux États-Unis compris. On a besoin d'une décision britannique, pas besoin de temps. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL la ministre des Affaires étrangères, Nathalie Loiseau. Dans 45 minutes, les députés britanniques doivent voter pour ou contre une sortie sans no deal, après avoir rejeté hier l'accord sur le Brexit. Ça devient compliqué leur histoire. Puis ils devraient demain donc se prononcer sur un délai supplémentaire avant le divorce. Mais à Bruxelles, l'exaspération gagne. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas dire simplement aux Britanniques d'aller se faire voir sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret?
Terrible image, hein, déjà, nous dit Pierre, que celle en boucle sur les réseaux de Theresa May, qui perd le vote et sa voix dans la fosse au lion des communes sans l'esquisse d'une solution à 3 semaines de l'échéance. La comparaison qui revient le plus souvent sur Twitter, c'est que le Royaume-Uni est un chat, vous savez, celui qui miaule des heures pour sortir, qui veut plus sortir quand vous ouvrez la porte, et si jamais il sort, regrette, veut re-rentrer, ça fait des courants d'air, un cauchemar, nous dirait. Après, il y a deux réactions. Il y a ceux qui lâchent bien fait, comme Véronique, estimant que l'UE doit protéger ses citoyens et ses entreprises. Les Brits ont choisi de nous quitter, qu'ils assument, mais qu'on nous protège, c'est le rôle des institutions. Et ceux, au contraire, comme Christian, qui accusent l'Europe de vouloir punir l'Angleterre pour dissuader toute autre sortie. C'est une stratégie recevable, comme toute politique du pire, mais très dangereuse, dit-il. On doit pouvoir être libre de quitter cette Europe. Les Anglais ont voté, leur choix doit être respecté, lance Lolo. Non mais ils sont pénibles, rétorque Lolo. Ils veulent tous les avantages, aucun inconvénient. Ils devaient réfléchir et s'organiser avant. Pour Tom aussi, le Royaume-Uni est désormais un concurrent, comme la Chine ou l'Australie ou n'importe qui. Louis pense même que Macron pensait à tort pouvoir récupérer les services de la City en étant aussi intransigeant avec la Grande-Bretagne, mais il va mettre la France dans la mouise. L'économiste David Kella confirme sur le Figaro Vox, la France dégage son plus important excédent commercial avec la Grande-Bretagne. Ce no deal serait une très mauvaise nouvelle pour notre industrie. L'UE donne vraiment l'impression d'être une secte qu'on ne peut pas quitter, soupire encore Sivi. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, tweet pour finir que la solution à l'impasse actuelle ne peut être trouvée qu'à Londres. De notre côté, nous sommes prêts à tous les scénarios, y compris celui d'un Brexit sans accord. Nous le devons aux Français et aux Britanniques de France.
Olivier Ravanello, est-ce qu'on ne devrait pas leur dire de sortir le 29 mars? Merci, au revoir. Et puis,
si, absolument.
On est d'accord.
Absolument.
Et puis pas à la prochaine, d'ailleurs.
Et on a là, sous les yeux, le résultat de 30 ans de démagogie alimentée par des élus, alimentée par une partie de la presse qui a expliqué aux Britanniques que tous les maux dont ils pouvaient souffrir venaient de ces affreux fonctionnaires de Bruxelles. Toute la démagogie anti-européenne qu'on peut entendre, y compris chez nous maintenant, à gauche comme à droite, ben vous en voyez le résultat au bout d'un moment. Ça finit par faire des politiques qui n'ont ni queue ni tête. Theresa May a essayé de présenter un accord en prenant en compte les demandes les plus dures des Brexiteurs. Ça n'a pas fonctionné. Elle va peut-être tenter maintenant d'avoir un accord un peu plus soft et ainsi d'avoir une majorité en prenant les voix des pro-européens du Labour, mais je ne suis pas sûr non plus que ça fonctionne. Mais oui, au final, l'erreur à faire serait une nouvelle fois de se dire « mais il faut sortir les Britanniques de la panade ». Parce que depuis le début, ces Britanniques, depuis le début de la construction européenne, rentrent à chaque fois dans des négociations pour obtenir un statut particulier. Et lorsqu'on a besoin d'eux, ou lorsque l'Europe impose certaines contraintes, comme sur des questions de politique étrangère, bah ils sont aux abonnés absents, puisqu'ils s'alignent sur les Américains. Donc au final, ça ne va pas changer grand-chose, je pense, à notre vie. À eux d'aller renégocier les 700 accords internationaux qui ont été passés par l'Union européenne. européenne, à eux de se taper 2 ans pour refaire tous les décrets de loi sur toute la réglementation, qui se le mange, ce Brexit, une bonne fois pour toutes, et on verra.
Oui, ça servira d'exemple pour toutes les autres nations qui veulent sortir d'Europe. Mais personne ne veut sortir d'Europe, en fait. Il n'y a que les hommes politiques qui veulent sortir de l'Europe, parce qu'ils se servent de l'Europe comme de la... d'un paillasson ou une espèce de...
Vous êtes aussi sûr que ça, que personne ne va y sortir de l'Europe ?
Ah, si vous prenez, si vous regardez les sondages auprès des populations, j'entends, vous voyez qu'il y a beaucoup d'euroscepticisme, mais en fait, personne ne veut vraiment en sortir, parce qu'ils savent que, bah, d'ailleurs, ceux qui en profitent beaucoup, ce sont quand même les peuples d'Europe centrale, et ils bénéficient d'énormément de fonds structurels, et ils ne seraient pas dans cet état-là, si d'ailleurs l'Europe n'avait pas volé à leur secours quand ils ont quitté le bloc soviétique. Et aujourd'hui, là où on voit des poussées de nationalisme et de populisme dans ces pays-là, en dépit de cela, vous voyez bien qu'ils ne veulent pas en sortir. Ils ne veulent pas que ça fonctionne de la sorte.
Mais regarde les Britanniques, ça s'est joué à 1%, et puis après tu fais d'autres études de sondage 6 mois après, et ils regrettent.
Oui.
Donc ça, la décision, elle peut basculer.
Ce que je vois en faire court, c'est que la Grande-Bretagne n'est pas sortie tout de suite de l'Europe, en fait. Je vais vous dire une chose. D'abord, ce soir, ils vont dire non au no deal, donc Mme May est assez tranquille, et demain... ils vont probablement voter pour un prolongement. Et les Européens sont prêts d'ailleurs à leur accorder une date
quelques semaines.
Ouais, enfin, non, mais ils sont pas prêts à leur accorder un report.
Est-ce que les hommes et les femmes politiques, les responsables politiques européens hors Grande-Bretagne vont avoir le courage de s'opposer justement à une sortie sèche? Enfin, d'accepter une sortie sèche de la Grande-Bretagne. Ben, ça, je voudrais
Angela
voir ça.
Merkel, manifestement non, d'après ses dernières déclarations.
Je pense que ce serait une catastrophe pour la Grande-Bretagne, bien sûr, en dépit de tout ce qu'on peut nous dire, de ce que nous dit M. François Asselineau. qui lui dit au contraire, il fait ça, lui. Et je pense que ça serait une catastrophe aussi pour l'Union européenne, parce que, néanmoins, eh bien, la Grande-Bretagne pèse très lourd dans le fonctionnement commercial. Elle n'a jamais joué les jeux ailleurs que sur le commerce. Elle n'est pas dans les accords de Schengen, elle n'a pas l'euro. Donc, c'est sur le plan commercial que ça serait, à mon avis, une mauvaise chose.
Moi, je pense que ce serait surtout une catastrophe pour la démocratie si les Anglais ne sortaient pas. Ils ont voté, peut-être qu'avec 1%, mais ils ont voté qu'ils voulaient sortir. Et bien, qu'ils sortent. Et si, alors, à court terme, pour des intérêts économiques, financiers, parce qu'on n'est pas prêt, on va peut-être essayer de noyer le poisson. Et certains en Angleterre commencent à essayer de réfléchir comment on pourrait ne pas faire le Brexit, mais ce serait une erreur. Les Anglais ont voté pour, ils ont voté pour. De même que les Français avaient voté non au référendum en 2005. Et on a contourné leur nom. On a contourné leur nom.
On paye aujourd'hui, et on paye dans toute l'Europe
de se dire que cette Europe n'est pas démocratique, qu'elle est faite à Bruxelles par des fonctionnaires, etc. Donc moi, je trouve que les choses soient claires. Olivier Ravanello vient très bien expliquer que d'un point de vue européen, il faut leur dire vous voulez partir, messieurs les Anglais, allez-y. Et puis d'un point de vue démocratique, d'un point de vue de citoyen, moi je pense que quand un peuple a décidé de quitter l'Europe, bah, il quitte l'Europe.
Mais je pense que la question, c'est pas de savoir s'ils vont quitter l'Union européenne, parce qu'ils vont la quitter, mais après, c'est dans quelles conditions et dans quelles circonstances.
Et pas tous ensemble, peut-être, parce que l'Écosse va peut-être dire ciao.
Oui, voilà. Pour moi, les questions, c'est quand même, malgré tout, un partenaire commercial important pour la France. C'est vrai qu'on a plusieurs capitales européennes qui lorgnent un peu sur la place de Londres, notamment Francfort, Paris, Amsterdam. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose de très justifié, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont installées à Londres parce que c'est une ville anglophone et parce qu'elles appliquent notamment dans les assurances le droit britannique. Donc si elles partent, c'est pas forcément pour venir à Paris, ça peut être pour aller à New York ou à Singapour. Donc c'est pas forcément une bonne chose que les entreprises qui sont à Londres finalement s'éloignent. Enfin voilà, on a l'impression que seuls les Britanniques vont payer, mais les entreprises qui sont à Londres, si elles s'éloignent de Paris pour aller à Singapour ou à New York, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de positif pour nous. Donc on a l'impression de faire payer les Britanniques, on est un peu en mode bien fait pour eux, mais enfin faut aussi réfléchir aux conséquences que ça aura pour nous, parce qu'en plus le cours de leur monnaie a baissé, ce qui a aussi un impact sur sur les revenus que nous procuraient nos relations commerciales. Donc moi, je suis plutôt partisane de trouver une solution qui soit une solution qui convienne à tout le monde, parce que finalement, nous, on n'y perd pas forcément à ce que les choses se passent bien à la sortie.
Ouais. Allez, dernier sujet dans un instant, le grand débat, le premier acte qui se termine vendredi.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauchy.
Ce soir avec Rokhaya Diallo, Nicolas Poincaré, Olivier Ravanello et Yves Tréhard. Des paroles et bientôt des actes. La première étape du grand débat se termine vendredi. RTL sera d'ailleurs demain à Soissons pour une série d'émissions spéciales, notamment une partie de la matinale avec Elisabeth Martichoux. Deux week-ends de conférences régionales avec des citoyens tirés au sort vont être organisés par la suite avant le point final. Le gouvernement s'exprimera devant l'Assemblée le 9 avril. Emmanuel Macron devrait également s'adresser aux Français. ce grand débat. On va débriefer donc avant la fin de ce premier acte. Donc, et puis évidemment, on va se poser la question de l'atterrissage. Yves Tréhard, succès ?
Oui, c'est un succès quand même, ce grand débat. C'est la sortie là, qui pose des questions. On ne voit pas comment on sortira du rond-point. Mais en tous les cas, les Français ont joué le jeu. Alors je ne sais pas si les Gilets jaunes, qui étaient ceux qui manifestaient, sont allés au grand débat, si j'en crois, ce que j'entends pas beaucoup. Mmh. En revanche, il y a énormément de Français mécontents, tout en n'étant pas gilets jaunes, de la politique conduite par le gouvernement et Emmanuel Macron, qui sont allés au grand débat. Il suffit de voir, il y a quand même plus d'un million, 1,4 million, je crois, de contributions. Il y a eu je ne sais combien de réunions, un peu plus de 10 000, je crois, réunions sur le territoire. Et évidemment, alors on a vu que le président de la République, parce que les médias ont suivi, mais il faut savoir que dans des cafés, hier, je suis allé, pour vous livrer un peu ma vie privée, je suis allé dans un restaurant, je ne dirais pas où je voulais aller boire un verre, et non, c'était grand débat. Il y avait plus de place, il fallait assister au grand débat. Donc, c'est assez intéressant, c'est une première quand même en France. Après, la question, c'est de savoir si la sortie sera un succès. Et là, je serai un peu plus dubitatif.
Déjà, donc, sur l'acte 1, Rokhaya, vous partagez le même enthousiasme ?
En tout cas, c'est une bonne chose de voir que les gens se sont emparés de l'outil et de l'opportunité d'échanger. Donc, il y avait vraiment un désir d'échanger, de prendre la parole sur le devenir et le destin politique qu'on partage en tant que Français. Et une manière, effectivement, de l'investir que je trouve très, très encourageante et très positive. Et finalement, c'est l'identification d'un besoin qui était profond. Après, quand je regarde ce que disent les garants qui étaient en charge, justement, de vérifier que le débat se déroule de manière éthique, l'impression qu'ils ont, c'est quand même que il y a eu des interférences en fait un peu trop grandes de la part du gouvernement qui, je pense, peuvent alimenter en fait une forme de méfiance vis-à-vis de personnes qui se sont dit c'est l'occasion de parler, puis finalement le fait que ce soit encadré par le gouvernement peut-être instillé en plus dans un contexte, bon, c'est le calendrier hein, mais c'est un contexte de campagne électorale, donc ça joue pas forcément de manière positive. Et ce qu'on voit aussi, c'est dans les débats qui ont été convoqués à l'initiative, enfin, où des gens devaient échanger avec des membres du gouvernement. J'ai vu des gens dire que certaines associations qui étaient pourtant actives sur le plan de la démocratie locale, la citoyenneté, n'avaient pas été convoquées. Donc on se demande aussi sur quels critères certains collectifs sont convoqués et d'autres non. Donc il y a des petites choses comme ça. Alors je ne sais pas quelle ampleur ça a, mais qui peuvent aussi interpeller sur... Et puis après, les questions peut-être trop nombreuses, parfois difficiles d'accès, etc. Enfin voilà, des choses un peu techniques qui peuvent... effectivement faire l'objet de réserves.
Moi, je dois dire que je comprends.
Olivier,
c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur les garants. Je comprends pas les critiques des garants. Je disais par exemple Perrineau qui disait que le président, en gros, avait été omniprésent. Mmh. Je n'arrive pas à comprendre la logique, en fait, ce qu'ils attendaient de ce débat. Vous avez un débat qui intervient alors que depuis deux mois, vous avez la France qui est bloquée, vous avez les Champs-Élysées qui sont à feu et à sang tous les samedis, et ce qu'on entend en permanence, c'est Macron, Macron, Macron. Je veux parler à Macron, je veux parler à Macron. Si j'ai pas Macron en face de moi, je suis pas content. Macron, Macron. Oui. Macron sort du bois. Il va au contact des Français. Il discute avec eux. Ben, c'est encore pas ce qu'il fallait faire. Au bout d'un moment, je comprends pas ce qu'on attend de lui, en fait. On attend de quoi de Macron? Quand il parle à la télé, ça va pas parce qu'il est trop distant. Quand il parle pas, il est jupitérien, il est chiant, il est autiste. Quand il parle et qu'il va se faire il va se taper des conférences pendant 6 heures, des marathons, mais ahurissants. Ah ben non, il prend trop de place. Au bout d'un moment, enfin, c'est.
Après, il y a peut-être un problème aussi de dénomination. C'était pas des débats. C'est-à-dire que c'était plus des questions qu'on posait au président qui répondait. Mais c'est vrai que dans la manière dont on a. C'est pas un débat
qui ça partait dans tous les sens. Il y avait une spontanéité.
Mais c'est plus des questions, et puis lui, après, qui recueille les
questions. Regarde d'abord ce qui s'est passé.
Oui, des choses un peu plus spontanées. Mais bon, après, je...
Ce que je peux, si, deux secondes, ouais. Simplement pour Perrineau, j'en ai parlé avec lui.
En combien de points
Non, un seul. il parle de Macron, point. Peut-être, mais il parle beaucoup des élus. Il dit que les élus, dans les réunions auxquelles il a assisté,
avaient
le tort de monopoliser pas la parole plutôt que de se mettre au fond de la salle.
Non, je crois qu'on est obligé de dire, d'un point de vue tactique, bien joué Macron. C'est vrai, Olivier vient de le rappeler, quand il a lancé ce grand débat, il était au fond du trou quand même. Il y avait des gens qui se demandaient ce qui allait se passer dans les semaines qui allaient suivre. On était face à une contestation énorme. Ce grand débat a au moins réussi à calmer le jeu. Les gens se sont exprimés, pas les Gilets jaunes, qui pour la plupart ont fait savoir que ça ne les intéressait pas, qu'ils se sentaient piégés, etc. Mais ils ont quand même été un petit peu étouffés par le fait que ça prenne, que les gens aillent dans les salles des fêtes, dans les mairies, dans les restaurants, comme Yves Tréhard l'a vu discuter. Macron, en plus, c'est ce qu'il sait le mieux faire au monde. C'est-à-dire que c'est un type, il a été formaté pour pour le grand oral de l'ENA. Et quand on dit, oh, il s'est tapé 6 heures de réunion, mais il adore ça. Il s'est préparé pour ça. Il était le meilleur à cet exercice-là. Il était bon à l'oral. Même à Normal Sup, il était, enfin, quand il préparait Normal Sup, il était bon à l'oral. À l'écrit, il s'est fait jeter. Donc, bon, bref, c'est le champion du monde du grand oral de l'ENA, Macron. Alors, il a fait son grand oral de l'ENA devant des centaines de milliers de téléspectateurs, puisque c'était sur toutes les chaînes d'info. Et un certain nombre de, donc bien joué. Maintenant, effectivement, la sortie, maintenant, bon. Toutes ces contributions, bon courage pour les analyser.
Ben on va en parler de la sortie après la pub, à tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec donc Yves Tréhard, Rokhaya Diallo, Nicolas Poincaré, Olivier Ravanello. Ce grand débat, l'acte 1 finit vendredi, demain RTL à Soissons, donc à cette occasion, et bientôt donc l'acte 2. Et c'est là où ça va se compliquer, donc Yves Tréhard quand même.
Ah oui, ça va se compliquer parce que là... D'abord, il faut dire aux auditeurs qu'il y a encore des réunions qui vont avoir lieu dans chaque région, dans les ministères, au Parlement. Et qui va choisir ? Et on sait qui va choisir, c'est évidemment le président de la République. Donc il y a deux cabinets qui ont été privés, qui ont été recrutés pour faire tourner les algorithmes et puis pour voir ce qui va se dégager. On sait déjà quels sont les thèmes principaux. Le premier thème, c'est évidemment la fiscalité. Le deuxième thème... C'est tout ce qui relève des institutions et de la participation des Français eh bien, aux décisions. Et simplement, comment on convertit ça sur le terrain. Et la première des craintes qu'on puisse avoir, c'est que la sortie... On est entré dans cette crise avec une contestation des augmentations d'impôts ou de taxes. Et on va en sortir avec une augmentation... évidemment, des taxes. Donc c'est l'équation impossible, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que sincèrement, ils vont être obligés de faire des gestes, et je crains fort que ce soit encore les classes moyennes qui payent les frais de l'opération.
Alors il y avait cette mesure dont on parlait autant autour des ronds-points et dont on parle moins maintenant sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Apparemment, les premiers dépouillements de toutes les contributions écrites donnent l'impression que les Français seraient moins attachés qu'on avait pu le croire. En fait, c'est assez simple, les gilets jaunes étaient très pour. La plupart des gens qui ont participé au grand débat ont l'air de l'être beaucoup moins, parce que ça coûtait pas très cher. Et c'était une mesure très, très symbolique. Moi, je continue à penser que c'est dans cette direction qu'on peut... avancer.
Il y a un thème qui n'est pas du tout évoqué, c'est celui de la décentralisation. Je pense qu'on va vers une nouvelle phase de décentralisation pour justement que l'État rapproche les décisions des Français.
Alors ce qui est étonnant dans ce que vient de dire Yves, effectivement, c'est ces instituts privés qui vont être chargés de faire tourner des ordinateurs. Donc on est passé dans une autre époque. ce sont des ordinateurs qui vont nous dire ce que veulent les Français et par conséquent, ce qu'on va sans doute procéder. Je ne sais pas exactement comment ça marche. On rentre des milliers de pages, on les scanne, je ne sais pas. Et puis les ordinateurs vous sortent que c'est le fisc, la TVA, l'indexation des petites retraites. Bon, c'est une nouvelle forme de démocratie. On va voir, ça fait un peu usine à gaz au stade où on en est.
Rokhaya.
C'est vrai que ça va être difficile de restituer ça et d'en faire des propositions, en tout cas satisfaisantes. Ça. Quand on entend Édouard Philippe parler de compromis démocratique avec sans doute des renoncements et des choix difficiles, c'est assez suffisamment vague pour qu'on ne sache pas vraiment ce qu'il compte faire de ça. Et autant le processus, le fait d'avoir pu permettre aux Français de réveiller un petit peu leur ferveur et leur envie d'échanger, c'est une très très bonne opération pour le gouvernement, autant les réponses qui vont être apportées, les annonces ou en tout cas, des décisions qui vont être prises et publiées peuvent vraiment faire retomber, d'une certaine manière, le gouvernement face à un sentiment de frustration. Et voilà. Et malgré tout, ce qui revenait quand même beaucoup dans les cahiers de doléances, c'est vraiment cette idée de la séparation, en tout cas de la distance que pouvait avoir une élite politique par rapport à eux. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faudra vraiment répondre, à mon avis, de manière conséquente.
Ce qui, moi, me réjouit, c'est que l'une des solutions, ça serait peut-être que les élus reviennent en première ligne et qu'on sorte de cette mythologie grotesque de la démocratie directe où 60 millions de personnes peuvent s'adresser directement au président qui va les écouter les uns après les autres et choisir quelle est la bonne idée qui aurait été susurrée par l'un d'entre eux. Voilà, on va revenir à la démocratie parlementaire qui est encore ce qu'on a imaginé de mieux depuis 2000 ans pour faire tourner une société et prendre des décisions politiques et que ce débat aura eu lieu, il aura été nécessaire pour que chacun puisse se dire, d'accord, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Est-ce qu'au milieu de tout ça, il y a eu des propositions révolutionnaires qu'aucun élu n'avait envisagées et qui, évidemment, va nous apporter le bonheur sur un plateau ? Ben non. Vous savez quoi ? Non, ils ne sont pas si cons, les élus, en fait.
Allez, on va terminer comme
c'est
ça.
Vrai, je suis tout à fait d'accord.
Allez, pardon. Merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL. Dans un instant, le flash de 20h. À 20h45, soir de Ligue des Champions, donc, puisqu'il y a le match Barça OL à suivre en direct à partir de 21h. Mais entre 20h03 et 20h45, ce sera l'heure du crime avec vous, Jacques Pradel. Bonsoir.
Bonsoir, Marc-Olivier.
Et au sommaire de votre émission raccourcie ce soir ?
Ce soir, dans l'heure du crime, une plongée intime au cœur d'un fait divers dramatique, un crime conjugal, un féminicide avec préméditation qui vaudra à l'assassin une peine de 25 ans de réclusion criminelle. La cousine de l'assassin, mon invitée ce soir, Joanne Rigoulot, a décidé de raconter ce séisme qui a fait bien d'autres victimes dans deux familles dévastées.
À tout de suite, Jacques.